Bonjour madame, monsieur, je m'appelle Léna Dupont, je suis une élève de 3e D. Je suis germaniste et j'ai choisi de présenter, dans le cadre de l'épreuve orale du brevet, une œuvre que j'ai découverte lors d'un voyage à Berlin et qui s'inscrit dans le programme d'histoire et dans celui de français de 3e. J'ai réalisé un diaporama pour appuyer mon propos. Pour traiter le projet que j'ai intitulé « Autodix et sa vision de la guerre », je vais dans un premier temps vous présenter l'artiste et son œuvre. Dans un deuxième temps, je vais analyser et interpréter l'œuvre dit Schkatzspieler. Enfin, je partagerai avec vous mes sentiments et mes impressions sur cette œuvre. Voici le tableau dit Schkatzspieler. L'œuvre est aussi appelée Les joueurs de skat, Kartenspielen 2, Kriegskrüppel, ou Invalide de guerre jouant aux cartes. Cette huile sur toile et collage est réalisée en 1920 par Autodix. Elle mesure 110 cm sur 87 et est exposée à la Neue Nationalgalerie de Berlin. L'artiste peut être présenté à travers deux portraits. L'un datant de 1915, il a alors 24 ans, et l'autre de 1933, photographié par Hugo Erfurtz. Celui de 1915 est intéressant car Autodix est en uniforme. Il s'est en effet engagé comme volontaire dans l'artillerie en 1914 et il a combattu pour l'Allemagne, dans la Somme et en Russie. Celui de 1933 montre bien que l'artiste est sorti vivant de la guerre. Mais il nous questionne, quelle est sa vision de la guerre? Nous allons maintenant analyser et interpréter son œuvre pour le comprendre. Le décor de la scène est très ordinaire. Nous sommes dans un café à Dresden, une ville allemande où vit Autodix. Autour d'une table, trois hommes jouent au skat, un jeu de cartes très populaire en Allemagne. Les personnages sont extraordinaires. Les trois hommes sont mutilés. Ils ont perdu leur sens, l'ouïe, l'odorat, la vue et leurs membres. L'un est scalpé, les autres sont réparés par des prothèses. Ces hommes sont des gueules cassées de la Grande Guerre. Il s'agit d'hommes mutilés, des citoyens qui ont été décorés pour leur bravoure durant la guerre. Ils représentent les ravages de la guerre. Autodix ne montre pas uniquement la dislocation des corps des hommes pour exprimer les ravages de la guerre. Voici quatre exemples. Tout en éclairant les trois hommes, la lampe fait planer sur eux la présence de la mort. Ces joueurs sont vivants puisqu'ils jouent aux cartes, mais en réalité, ce sont des morts vivants, détruits physiquement et mentalement par la guerre. Les pieds de la table nous renvoient à l'entassement des corps sur le front, au fil barbelé des tranchées, à la brutalité des combats. Les cartes démontrent que les jeux sont faits et que la vie, comme la guerre, est un jeu de hasard. Enfin, l'arrière-plan obscur s'oppose au premier plan occupé par les trois joueurs vêtus de vestes aux teintes froides. On appelle cela le clair-obscur. Les joueurs de skat est ainsi un exemple d'œuvre expressionniste. Autodix y exprime son dégoût pour la guerre et pour tout ce qu'elle engendre dans la société. Le peintre transforme la réalité en l'exagérant parce qu'il veut nous choquer et susciter des interrogations sur la guerre. Le réalisme teinté de pessimisme qui se dégage de cette œuvre de l'après-guerre est caractéristique de la nouvelle objectivité, un courant artistique incarné par Autodix. J'ajoute enfin que l'œuvre d'Autodix est considérée à l'époque par Hitler comme étant de l'art dégénéré. Nous allons maintenant montrer les liens à établir avec d'autres œuvres. Les joueurs de skat fait partie, avec trois autres œuvres, d'une même série datée de 1920. Prager Straße ou la rue de Prague, Streich Holzhändler ou le marchand d'allumettes et la barricade qui, elle, n'est plus visible car elle a été brûlée en 1954. Dans un autre registre que celui de la peinture, nous pouvons établir un lien avec la littérature et le cinéma. Le roman « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre, paru en 2013 et couronné par le prix Goncourt, ainsi que le film réalisé par Albert Dupontel, sorti en 2017, font écho à l'œuvre, particulièrement avec le personnage d'Édouard Péricourt. Pour conclure, je me suis questionnée sur mon ressenti. J'ai été, et je suis toujours, impressionnée par cette œuvre. Mais pas parce qu'elle me plaît particulièrement. En effet, quand je l'ai découverte, j'ai eu un choc et j'ai éprouvé un sentiment de dégoût. Les mutilés m'ont fait peur. En l'étudiant, j'ai appris à la comprendre. Elle me renvoie l'idée, à moi qui n'ai pas vécu la guerre, que celle-ci est brutale, inutile, grotesque, absurde et qu'elle martyrise les hommes en leur laissant des séquelles dont ils ne pourront jamais se débarrasser. Je ressens de la compassion et de la pitié et un immense respect pour ces hommes brisés qui ont sacrifié leur jeunesse pour défendre leur patrie attaquée et qui ne pourront plus jamais vivre une vie normale. Je trouve la technique du collage astucieuse et bien adaptée au thème parce que de la même manière qu'elle apporte de la réalité à la toile, elle montre que la médecine colle des prothèses aux invalides pour tenter de leur donner l'impression qu'ils vivent encore comme avant la guerre. Autodix s'est servi de son art pour dénoncer les horreurs et les séquelles de la guerre et pour moi, expliquer sa toile est un devoir de mémoire. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute.
Nous vous remercions pour votre prestation. Vous avez réussi, à partir de l'œuvre choisie, à démontrer l'opinion d'Autodix sur la guerre. Nous allons vous poser quelques questions destinées à approfondir votre réflexion et à majorer votre note à l'épreuve orale. Pour débuter l'entretien, nous allons vous demander si vous pouvez expliquer ce qu'est la nouvelle objectivité.
Ce courant artistique porte un regard réaliste, souvent acerbe, sur la société de l'entre-deux-guerres en proie à un profond malaise et pessimisme. Le peintre peint le laid, ce qui est complètement différent de la Renaissance où les peintres peignaient le beau. Les aspects les plus ordinaires et les plus sombres de la vie urbaine sont traités pour que l'on puisse voir la laideur de l'humanité, l'aspect difforme des corps. Les personnages y sont misérables. Les peintres de la nouvelle objectivité cherchent à l'époque à dénoncer les problèmes de la République de Weimar, proclamée en novembre 1918 et qui se terminera avec l'arrivée d'Hitler. Le 30 janvier 1933, Hitler est en effet appelé au poste de chancelier par le président Hindenburg. À la mort du président en août 1934, Hitler a supprimé la République de Weimar et a installé sa dictature.
Vous avez mentionné l'art dégénéré. Pourriez-vous nous en dire plus?
En allemand, cela se dit « entartete Kunst ». Dès son accession au pouvoir en 1933, Adolf Hitler critique les recherches picturales commencées dans les années 1910 par les artistes expressionnistes allemands, parce qu'elles s'éloignent des représentations traditionnelles de l'art et parce qu'elles proposent des langages esthétiques nouveaux et variés qui s'apparentent aux arts primitifs africains et au cubisme. Arts qui ne peuvent pas représenter dignement l'Allemagne à ses yeux. En 1937, Hitler organise une exposition sur ce qu'il appelle l'art dégénéré, dans le but d'écœurer les Allemands. Mais le contraire se produit, puisque l'exposition a un succès fou. Finalement, Hitler finit par interdire cet art dégénéré et fait brûler certaines œuvres.
Pourquoi établissez-vous un lien avec le personnage d'Édouard Péricourt?
Je me suis demandé comment une gueule cassée pouvait se réinsérer dans la société après une guerre. Ces jeunes hommes faisaient peur, comme on peut le voir sur l'œuvre d'Autodix, et il me semble qu'il pouvait se mettre en dehors des autres, et donc s'auto-exclure. C'est ce qui est raconté dans le roman de Pierre Lemaître à travers ce personnage. J'observe aussi que dans le roman, Édouard Péricourt porte un masque. Il le porte sans doute pour dissimuler son visage détruit par la guerre, pour se cacher et pouvoir être quelqu'un d'autre. Cela me semble n'être qu'un leurre, car il est impossible à Édouard Péricourt d'échapper à la réalité. Il est obligé, malgré la fin de la guerre, à vivre avec ses douleurs, son visage défiguré, sa dépendance à la morphine. La fin du roman nous prouve qu'il n'y parvient pas.
Connaissez-vous d'autres œuvres d'Autodix?
Il existe des eaux-fortes, comme Cadavre dans les barbelés, La danse des morts, Assaut sous les gaz, Soldat blessé, exposé à l'Historial de Péronne. Aussi, durant la guerre, Autodix avait un carnet sur lequel il croquait des scènes. À la fin de la guerre, il a voulu faire une exposition itinérante pour dénoncer la guerre et il a réalisé 50 eaux-fortes intitulées « Der Krieg ».
Pouvez-vous nous expliquer la technique de l'eau-forte?
L'eau-forte est une autre technique utilisée par Autodix pour représenter sa vision de la guerre. L'eau-forte est une gravure obtenue en faisant mordre par de l'acide nitrique une plaque de cuivre ou de zinc recouverte d'un vernis protecteur sur laquelle un dessin est réalisé avec une pointe mettant le métal à nu. À la sortie du bain d'acide nitrique, la plaque est nettoyée avec de l'essence de térébenthine, elle est ancrée et recouverte d'une feuille de papier, puis elle passe sous presse. En utilisant cette technique, Autodix établit un parallèle entre l'acide nitrique qui mord le métal et la guerre qui détruit le soldat en lui enlevant tout ce qui fait son humanité.
Connaissez-vous d'autres peintres qui ont dénoncé la guerre ?
Nous pouvons citer Pablo Picasso et son immense toile Guernica qui dénonce la violence nazie et franquiste durant la guerre d'Espagne. La toile représente le village de Guernica, un jour de marché, bombardé par l'aviation allemande en 1937. Elle est un symbole de dénonciation de la guerre. Il y a aussi Fernand Léger avec la partie de cartes. Il s'agit d'un tableau cubiste parce que les formes représentées sont géométriques et éclatées, fragmentées et simplifiées. On a l'impression que les soldats sont devenus des sortes de robots, des pièces mécaniques. Il est intéressant de constater que la toile de Picasso est en teinte de gris, noir et blanc, qui sont des couleurs froides, alors que celle de Fernand Léger est en couleurs primaires chaudes, rouge et jaune, et froides, bleues.
Connaissez-vous le nombre de blessés et mutilés de la Première Guerre mondiale ?
21 millions d'hommes, jeunes, de 18 à 28 ans, tous camps confondus.